Salut tout le monde, bienvenue à cette présentation hebdomadaire sur la glace édition du 16 janvier, balado-diffusion qui vous est présentée chaque semaine, qui parle de hockey de la Ligue américaine, de hockey junior, on parle évidemment du Rocket, de tout ce qui se passe au niveau des meilleurs espoirs. On a plein de choses pour vous cette semaine, on va s'entretenir avec Anthony Richard du Rocket de Laval qui a été sélectionné pour participer au match des étoiles de la Ligue américaine, lui qui est revenu avec le Rocket. On va parler de ce qui s'est passé cette semaine dans la LHJMQ. Il y a également eu vendredi, c'est quand même toujours un moment important en saison, la fameuse publication de la liste de la centrale de recrutement de la Ligue nationale, liste numérique qui fait état des meilleurs espoirs pour la séance de sélection de la mi-saison. On va aller faire un tour dans l'Ouest également, regarder ce qui se passe avec Connor Bedard, qui continue à être aussi hallucinant là, depuis son retour. Bref, plein de choses pour vous. Avant d'aller plus loin, ben, je veux remercier, vous voyez derrière moi, côté-là, chandail bleu de la LHJMQ. Alors, merci à la Ligue junior majeure du Québec de m'avoir fait parvenir ce magnifique chandail que je puisse mettre en évidence. Merci à Pierre Leduc, directeur des opérations là, de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, qui m'a remis ce beau cadeau la semaine dernière. Alors, j'avais promis que je mettrais ça en évidence. Ben, voilà, c'est fait. Je veux dédier l'émission d'aujourd'hui à Gino Ojik, qui nous a quittés au cours des dernières heures. Gino Ojik, cet ancien dur à cuire du Titan de Laval, fin des années 80, début des années 90, qui a succombé à la maladie crise cardiaque qui a été malheureusement l'a emporté hier. Donc, je salue sa famille, offre mes sincères condoléances, les gens de Maniwaki notamment. Je me souviens d'avoir couvert un match pré-saison des Olympiques de Hull en 1990, à mes tout débuts RDS. On avait joué un match à Maniwaki et j'avais été faire un tour dans ce coin-là. C'était ma première visite à l'époque et Gino Ojik, c'est vraiment quelqu'un d'important là-bas pour les Premières Nations et tout ça. Alors, Gino qui a joué 2 ans avec le Titan de Laval, a remporté 2 fois la Coupe du Président, a quand même joué 600 matchs dans la Ligue nationale et a réussi à faire sa place à une autre époque, il faut le dire, à une époque où les bagarres, les durs à cuire étaient plus en demande que c'est le cas aujourd'hui. Mais Gino Ojik, certains riaient de lui au début quand il est arrivé avec le Rocket, pas avec le Rocket, avec le Titan de Laval, on disait... Va-t-il être capable de tenir son bout? Il avait joué pour Bob Hartley à Hawkesbury la saison précédente et c'est Bob qui l'avait recommandé aux frères Morissette à Laval. Et on ne l'a jamais regretté du côté du Titan. Autre décès aussi au cours des dernières heures, Todd Gillingham, pour ceux qui suivaient les Draveurs de Trois-Rivières au tournant des années 90, à peu près à la même époque que Gino Ojik. Il avait connu une saison de 146 points aux côtés de Yannick Perrault. C'est un gars originaire de Terre-Neuve. Alors, lui aussi est décédé hier. Alors, c'est un dur week-end pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, toutes mes condoléances aux familles éprouvées. Le Rocket de Laval a atteint le cap de la mi-saison vendredi avec une défaite à Syracuse de 7-3. Quand on regarde l'ensemble des 36 premiers matchs pour le Rocket, c'est une première moitié de saison difficile, on va se le dire. 13 victoires, 18 défaites en temps régulier et 5 défaites en bris d'égalité. Donc 13 victoires, 23 défaites. Ce qui fait que pour le Rocket, en 6 ans d'existence, c'est la moins bonne première moitié de saison. Quand on regarde ça au niveau des buts marqués, on se dit l'équipe va bien à l'offensive, 124 buts marqués. L'équipe est première de la Ligue américaine au niveau des tirs au but par match. C'est souvent 35 lancés par match. Les deux matchs à Toronto et à Rochester la semaine dernière, Toronto dimanche dernier et Rochester mercredi, le Rocket a dirigé 100 tirs au but en 2 matchs, 100. Et tu sors de là avec 2 défaites et seulement 3 buts marqués. Normalement, quand tu tires 100 fois, tu devrais marquer 8 ou 9 buts. Tu sais, on demande aux gardiens de but d'avoir un taux d'efficacité là, de 90, 91, 92 %. Ça veut dire qu'on s'entend que l'attaque doit marquer 8, 9 buts à tous les 100 tirs qu'elle dirige au but. Ben, ça n'a pas été le cas dans le cas du Rocket. Défaite de 4-2 à Toronto dimanche dernier, défaite de 3-1 mercredi à Rochester et défaite de 7-3 à Syracuse vendredi. Le Rocket qui a toutefois bien amorcé sa deuxième moitié de saison. avec une victoire de 6-2 contre les Monsters de Cleveland samedi après-midi, match au cours duquel le capitaine Alex Belzile a réussi le premier tour du chapeau de sa carrière dans les rangs professionnels. Il a complété son tour du chapeau avec un but dans un filet désert à la toute fin. Il y avait encore plus de 8000 spectateurs à la Place Belle. Les foules sont vraiment excellentes à la Place Belle depuis le début du mois de décembre particulièrement. Et dans cette première moitié de saison, même si le Rocket n'a pas très bien joué, on a quand même attiré 120 000 spectateurs en 18 matchs, donc une moyenne de 6660 spectateurs par match. C'est excellent. Le Rocket, donc, qui a entrepris cette deuxième moitié de saison avec un match contre Cleveland. Cette semaine, il y aura une autre visite mercredi à Rochester, un deuxième mercredi de suite. Et vendredi et samedi, deux gros clients qui s'amènent à la Place Belle, les Bears de Hershey vendredi soir et les Marlies de Toronto samedi après-midi. Vendredi soir, ce sera présenté sur le web, en web diffusion à rds.ca. Et samedi après-midi, toute l'équipe sera là pour le match à 15h contre les Marlies de Toronto. Ces deux équipes qui sont au premier rang de leur section respective, la section Atlantique, la section Nord. Ce ne sera pas commode pour le Rocket, mais le Rocket doit commencer là, à accumuler des victoires parce qu'après ça, il y aura un match contre Belleville la semaine prochaine et le Rocket va par la suite disputer une séquence de 9 matchs sur 11 à l'étranger. Et tous des matchs contre les rivaux de section, le Cleveland deux fois, Toronto deux fois, Belleville trois fois, Rochester une fois et Toronto une autre fois. Alors, ça va jouer là. Ça va jouer là pour le Rocket entre le 27 janvier et le 25 février. Beaucoup de matchs à l'étranger contre les rivaux de section. On le dit souvent dans la Ligue américaine, on joue beaucoup de matchs contre les rivaux de section et c'est souvent là que ça se joue pour une place en séries éliminatoires. Ce matin, avant la séance d'entraînement, j'ai fait un brin de jasette avec Anthony Richard, le meilleur buteur du Rocket cette saison, lui qui revient d'un séjour de 7 matchs avec le Canadien. Séjour au cours duquel il a marqué son premier but dans la Ligue nationale. On aurait peut-être aimé voir l'expérience se prolonger dans le cas d'Anthony Richard, mais il y avait des dalles administratives là-dedans. C'est que si on ne le retournait pas la semaine dernière, il aurait fallu, quand on l'aurait retourné éventuellement, le repasser au balotage. Et peut-être que l'organisation du Canadien du Rocket avait peur de le perdre. Alors, on n'a pas pris de chance. On a cédé Anthony Richard et on a rappelé Jesse Ylönen. Il faudra voir au cours des prochaines heures, avec les blessures à Jake Evans et Juraj Slafkovský, si le Canadien va lancer d'autres SOS en direction de Laval. Ce sera à suivre. Mais disons que pour l'instant, Anthony Richard, au moment où on enregistre la balado, est toujours avec le Rocket. Et j'ai fait un brin de jasette avec lui ce matin. Voici cette entrevue.
Anthony, j'aimerais ça qu'on revienne d'abord sur ton retour avec le Rocket. Ça s'est fait la semaine dernière, en pleine semaine sur la route. Comment ça se passe quand on doit revenir de la Ligue nationale après avoir joué ce match, puis de retomber, si on veut, dans la Ligue américaine?
Ben c'est une grosse déception pareil. Puis ça, j'ai pas vraiment eu le temps d'y penser. Je suis retourné tout de suite à Rochester, comme tu dis, ça a été vite. Puis j'étais content aussi de pouvoir jouer rapidement. Puis me remettre dedans, là, c'est deux calibres qui sont différents. C'est deux très bonnes lignes, mais ça joue du hockey qui est quand même assez différent. Là. La Ligue nationale, c'est beaucoup plus serré. T'as moins de temps avec la rondelle. Là. Puis dans la Ligue américaine, c'est les gars, ça frappe plus, à mon évidence. Le jeu est un petit peu plus décousu, mais comme je dis, t'as aussi pas beaucoup de temps avec la rondelle juste par le fait que les gars sont tellement intenses, puis tout le monde veut monter. Fait que c'est deux calibres qui sont différents, mais j'étais content de pouvoir jouer à Rochester aussi rapidement.
Avant ce rappel-là, tu avais joué seulement deux matchs, puis ça faisait quand même quelques années que c'était arrivé. Les sept matchs que tu as passés avec le Canadien, tu as eu la chance de marquer ton premier but. Est-ce que ça te reconfirme que tu n'es pas loin de ça puis que tu serais capable de jouer là?
Ben effectivement, là, c'est dans les premiers matchs, je me sentais super bien. Je pensais zéro sur la patinoire. Là, je me sentais vraiment libre. Puis c'est dû au fait que j'arrivais avec beaucoup de confiance dans la Ligue américaine. J'avais pas peur de faire des erreurs. Puis je jouais mon style de jeu comme je voulais jouer. Puis plus que les matchs avançaient, je sentais que je commençais à penser un petit peu à la glace, qui était dû au fait que des fois, tu as un petit peu moins de temps de glace. Donc, tu es moins dans le match, tu es un petit peu plus froid, comme on dit. Fait que je voulais pas faire d'erreur. Puis c'est à ce moment-là aussi que tu sors de ton ADN de joueur un peu quand que tu penses un peu trop à la glace. Fait que je dirais que les derniers matchs au Centre Bell, j'ai un petit peu moins joué, mais j'ai quand même essayé d'amener de l'énergie dans le match, mais je trouve que j'ai moins amené un peu d'apport offensif qu'on va dire à mes premiers matchs.
J'ai été de ceux qui ont dit, puis je n'ai pas été seul. Tu rappelles Anthony Richard pour le faire jouer sur le quatrième trio à Montréal. Est-ce que c'est un bon fit? Qu'est-ce que tu penses de ça? Je sais que tu vas me dire, tu sais, tu peux pas déloger Caulfield, Suzuki comme ça, mais de jouer avec des gars qui sont plus limités offensivement, pour un gars comme toi, est-ce que c'est difficile?
Ben, c'est sûr que c'est pour moi, j'essaie d'amener de l'énergie. Je pense que faut que tu commences à quelque part, là. Surtout une équipe comme ça qui ont beaucoup quand même de vétérans. Puis c'est des décisions pour le coach qui sont dures à tasser parce que tu veux pas mettre des vétérans à dos. Surtout un joueur qui a peu d'expérience comme moi qui arrive dans la Ligue nationale. Mais c'est sûr que j'aurais aimé ça, démontrer ce que j'étais capable de faire offensivement. Puis comme je dis, dans n'importe quelle ligue, quand tu joues plus que 13-14 minutes, c'est là que tu commences à vraiment te sentir bien sur la glace. Puis tu peux essayer des jeux sans vraiment avoir peur de manquer de temps de glace, peu importe. Fait que sûr, j'aurais aimé ça pouvoir, comme tu dis, avoir l'occasion de pouvoir démontrer ce que je suis capable de faire offensivement. Mais si j'ai à rejouer sur la quatrième ligne, au moins je vais être prêt, tu sais, je vais mentalement à pouvoir rester dans le match, même si tu joues 5-6 minutes, là.
Est-ce que Martin Saint-Louis ou Kent Hughes t'ont parlé avant ton retour? On a dit que c'était un retour administratif un peu aussi, parce que si tu restais un peu plus longtemps avec les Canadiens, tu aurais dû être soumis au balotage encore. Est-ce qu'on était quand même satisfait de ce que tu avais amené?
Ben pour l'identité que Ken voulait que je joue, tu sais, je pense que tu sais, affecté au quatrième trio, c'était un rappel qui était spécifique dans le sens que tu sais, si j'étais capable de faire ce travail-là, je pense. Puis un gars comme moi qui est capable d'amener de l'énergie, puis qui est capable aussi éventuellement de marquer si j'ai à monter sur une troisième ou un deuxième trio. Tu sais, ils ont vu que j'étais capable de faire ça aussi. Fait que c'est pour moi, j'étais satisfait de ce que j'ai apporté sur un trio plus défensif. Puis l'énergie que j'ai apportée là, puis eux aussi, je pense qu'ils ont vu que peu importe la situation, j'étais capable d'avoir un impact sur le match.
Tu n'étais pas là dans le match à Toronto le dimanche dernier, mais en deux matchs, le Rocket a eu 100 tirs au but à Toronto par Rochester, puis on marque seulement 3 buts. Il y a eu la défaite à Syracuse vendredi aussi. Au moins, vous avez rebondi avec une victoire samedi. C'est pas évident quand même là, de coller les victoires avec le Rocket depuis le début de la saison. Là.
Non, mais on a, tu sais, une équipe, on joue quand même bien. Depuis que je suis revenu, moi, je trouve qu'on a une équipe qui est complètement différente de quand que je suis parti. T'sais, les gars, ils jouent serré défensivement, puis les gars ont de la confiance avec la rondelle. Je trouve qu'en zone défensive, il y a beaucoup moins de chances de marquer de l'enclave que quand je suis parti, là. Avant que je parte, c'était quasiment on aurait dit qu'on jouait au camp d'entraînement tellement qu'il y avait des ouvertures dans notre zone. Puis je trouve qu'on est pas mal plus serré dans notre zone. Puis les gars, je pense, ont une bonne tête pour faire des bons jeux en sortie zone, puis on passe moins de notre temps dans notre zone parce que on est capable de coller deux, trois passes consécutives puis sortir de la zone. Au début de l'année, je trouvais que on se débarrassait du puck rapidement, puis ça causait des fois on était pris dans notre zone 2-3 minutes. Fait que puis on a, tu sais, je pense, j'ai regardé l'autre jour, on a une des meilleures offensives de la Ligue américaine, là, qui est quand même surprenant comparativement. Tu sais, que d'habitude, quand tu as une bonne offensive, ça reflète au classement, mais on est capable de continuer de marquer autant de buts puis de serrer notre défensive puis d'aller chercher deux victoires à chaque semaine. C'est 2 victoires sur 3 jusqu'à la fin de l'année. D'après moi, ça nous place dans une bonne situation.
Vous êtes l'équipe qui a le plus de tirs au but dans la Ligue. Je ne sais pas si vous le saviez. Là, c'est un peu bizarre comme statistique, effectivement. Est-ce que c'est des tirs, des fois, qui viennent de loin? Est-ce que c'est ça la mentalité d'équipe? On tire de partout?
Ben, je sais que GF, dans les années précédentes, quand je jouais contre, c'était une équipe que, tu sais, GF, il aime ça amener beaucoup de lancers au filet, beaucoup de volume. Tu sais, surtout dans la Ligue américaine, tu fais face souvent à des gardiens qui sont soit recrues ou c'est comme samedi, c'est un gardien qui est en ses premières expériences dans la Ligue américaine. Fait que c'est important d'amener beaucoup de tirs au filet pour le défier. Fait que moi, je pense que c'est une des mentalités que Jean-François il a toujours eu dans ses équipes, c'est d'amener beaucoup de lancers. Puis présentement, ça nous sourit parce qu'on a une des meilleures offensives de la Ligue américaine. Fait que si on est capable de donner beaucoup moins de buts, je pense que on a l'équipe pour gagner des matchs 5-2, 6-2 là, à presque chaque fin de semaine, tellement qu'on a beaucoup d'apports offensifs de presque toutes les lignes.
T'aurais sûrement aimé rester avec le Canadien, mais en même temps, tu vas vivre une expérience dans une couple de semaines de représenter le Rocket au match des étoiles qui a lieu à Laval. Ça doit être quelque chose quand même qui te fait plaisir, là.
Ouais, exact. Je sais qu'il y a des belles destinations dans la Ligue américaine, mais Laval, c'est quelque chose de spécial, là. Je voulais le faire aussi quand il était à Laval là, 2 ans, quand c'était la COVID, puis malheureusement, ça a été repoussé, puis je suis content que ça arrive l'année que j'ai ma meilleure saison, puis que je puisse vivre ça à Laval, là. Il y a beaucoup de monde que c'est pas vraiment important le match des étoiles, même dans la Ligue nationale, mais même les gars de la Ligue nationale, quand ils sont choisis, c'est flatteur, puis c'est surtout une belle occasion de démontrer tes habiletés le dimanche là, dans le concours d'habileté. Puis le lundi, c'est plus un show pour les partisans.
C'est encore une grosse semaine. Rochester, mercredi, puis vendredi et samedi, les deux équipes qui mènent chacune des sections, le Hershey et Toronto. Tu dis deux games sur trois, c'est toujours ça qui va être l'objectif, selon toi, là, d'ici la fin de l'année?
Ouais, que tu sais, l'année passée à Syracuse, c'est ça notre objectif quand je suis arrivé. Je pense que Syracuse était dernier au classement de la division. Puis Ben Gros nous avait dit, tu sais, deux sur trois dans les Ligues américaines, à chaque semaine, c'est capable de coller ça. Tu vas finir en haut de 600 pour finir l'année. Fait que tu sais, souvent, ça te place bien. Puis il avait eu raison. Je pense qu'on a terminé deuxième au classement dans la division. Fait que je pense que c'est ça le message de GF après le match de samedi. C'était capable d'en gagner deux sur trois jusqu'à la fin de l'année à chaque semaine. C'est sûr qu'il y a des semaines qui sont en échappée, mais tu sais, ça te place vraiment bien. Puis je pense que les équipes sont tellement proches l'une de l'autre dans notre division que je pense qu'on a vraiment l'équipe pour remonter. Mais maintenant, c'est d'arrêter de le dire puis juste de vraiment produire parce que je pense depuis le début de l'année, on est quand même assez up and down, mais il y a beaucoup plus de down que de up. Fait que c'est juste d'être constant. Là. Pour l'instant, on n'a pas encore réussi à trouver cette constance-là.
Une petite dernière avant de te laisser aller, là. Le feeling d'embarquer sur la glace, tu en avais parlé au Centre Bell, là, la musique, puis tout, tu veux vraiment. Comme, est-ce que tu as pris le temps de l'apprécier quand c'est arrivé?
Ah, vraiment, aussitôt que j'ai sauté sur la glace, c'était comme si j'étais un partisan. On aurait dit que je n'étais pas capable d'enlever mon sourire dans mon casque. Je tournais sa glace. Puis c'est vraiment le feeling que je m'étais rêvé de ressentir l'atmosphère de la foule. C'est un match de saison, mais la foule au Centre Bell est réputée pour être une des plus bruyantes. Puis c'était vraiment magique, là. Puis ça, je disais à mon père après le match, je pourrais même pas imaginer le Centre Bell dans un match 7 en série de la Coupe cette année, là, ça doit vraiment être un building qui est vraiment incroyable à jouer.
Merci d'avoir pris le temps. Continue ta bonne saison, puis on va te souhaiter un autre rappel éventuellement. Merci, Anthony.
Merci.
Alors voilà, Anthony Richard du Rocket de Laval qui va représenter le Rocket au match des étoiles. Il y a Justin Barron, le défenseur aussi, qui a été sélectionné pour participer à ce match d'étoiles. Pour l'instant, il est toujours avec le Canadien. Alors, sera-t-il retourné d'ici le week-end du 5 et 6 février? Ça reste à voir. Si c'est le cas, ben, il pourra lui aussi participer à ce match-là. Je vous rappelle donc la semaine du Rocket, mercredi à Rochester, vendredi et samedi à la Place Belle contre les Bears de Hershey, pour qui il s'agit de la seule visite de la saison, le club école des Capitals de Washington. Et samedi, ben, les Marlies de Toronto qui seront de passage à la Place Belle. Lors de la première visite des Marlies, le Rocket avait subi deux défaites, 7-4 et 5-4. C'est pas facile contre Toronto cette année, qui a toute une machine. Alors, ce sera donc un test important pour le Rocket. Avant d'y aller avec la LHJMQ, peut-être un petit mot sur les Lions de Trois-Rivières dans la LCHL qui ont eu une semaine difficile à la maison. Trois défaites en trois matchs contre les Solar Bears d'Orlando. Une de ces défaites-là, celle de mercredi dernier en prolongation 3-2. Les deux autres en temps réglementaire, donc seulement un point sur six. Les Lions de Trois-Rivières qui arrivent eux aussi là, le week-end prochain à leur mi-saison de 72 matchs. Ils vont disputer leur 36e match. On va maintenant parler de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On sait que les transactions et tout ça, c'est terminé. Il y a eu une semaine quand même intéressante où il y a eu des matchs intéressants à surveiller. Je pense entre autres aux Moussettes d'Halifax qui ont disputé deux matchs à la maison contre les Remparts de Québec et le Phoenix de Sherbrooke. Et les Moussettes sont allés chercher deux victoires dans ces deux matchs-là. Alors évidemment, ça lance un message à toutes les autres équipes que les Mooseheads, on le savait, là, vont être parmi les équipes à surveiller, d'autant plus qu'on a réalisé ces deux victoires avec l'absence de Zachary Lheureux, qui était suspendu, un des joueurs importants. Quand je regarde les Mooseheads présentement, ils ont 40 matchs de jouer, ils ont 6 points de retard sur les Remparts de Québec, un match de plus à disputer que les Remparts. Et d'ici la fin de la saison, il faut être honnête, là, 16 des 28 derniers matchs des Mooseheads vont se jouer contre les quatre équipes en reconstruction des Maritimes, le Titan, les Islanders de Charlottetown, les Eagles du Cap-Breton et les Sea Dogs de Saint-John. Alors, c'est évident que les points vont être un petit peu plus faciles à aller chercher pour les Mooseheads qu'ils le seront pour les Remparts et pour le Phoenix de Sherbrooke, les Tigres de Victoriaville et les Olympiques de Gatineau. Donc, j'aurais tendance à penser en ce 16 janvier, là, on est quand même à, encore à 2 mois et demi de la fin de la saison, que les Moussets d'Halifax sont en bonne position pour éventuellement rattraper les Remparts de Québec. Il va rester un match à jouer entre les Moussets et les Remparts le 26 février prochain à Québec. D'ailleurs, ce week-end-là, le 24, 25 et 26 février, les Moussets seront à Victoriaville, Sherbrooke et Québec. Alors ça, ce sera une très, très bonne indication là, de la teneur des Moussets d'Halifax pour terminer la saison. Mais dans une année où la section des Maritimes est beaucoup en reconstruction et beaucoup plus faible, et ce n'est pas moi qui le dis, là, ce sont les chiffres. Quand on regarde le classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en ce moment, on se rend compte que le Titan est 14e, les Eagles sont 16e, les Sea Dogs 17e et les Islanders 18e. Alors, 4 des 5 dernières équipes au classement général sont dans la section des Maritimes. Alors, c'est évident que les Mooseheads vont profiter de cette situation. Ils sont présentement, les Mooseheads, sur une séquence de 16 matchs sans défaite en temps réglementaire. La dernière défaite des Mooseheads en temps réglementaire, elle remonte au 27 novembre contre les Wildcats de Moncton. Depuis ce temps-là, ben, les deux seules défaites, il y en a eu une contre Moncton en prolongation et une contre le Cap-Breton en prolongation. Sinon, ben, c'est tous des victoires. Alors, c'est évident là, que pour la troupe de Sylvain Favreau, les choses vont bien présentement. Si on fait le tour un peu des 5 formations de tête au cours de la dernière semaine, ben, les Olympiques de Gatineau, je suis allé faire un tour d'ailleurs à Gatineau pour les matchs de jeudi et vendredi. 3 victoires consécutives. Et ce qui est intéressant là, dans le cas des Olympiques, c'est qu'on parvient finalement à gagner des matchs en prolongation. Là. On avait eu toutes sortes de difficultés à gagner. L'an passé, aucune victoire en prolongation. Et là, depuis le retour de la pause de Noël, ben, c'est quand même 4 victoires en prolongation pour la troupe de Louis Robitaille, qui est allé chercher donc 3 victoires de suite, 2 contre Boisbriand et 1 contre Drummondville. Il y aura un gros match pour les Olympiques mercredi à Victoriaville. Les Olympiques qui ont présentement 58 points. Les Huskies de Rouyn-Noranda, ça a été plus difficile leur voyage. 3 défaites à Chicoutimi et à Baie-Comeau, on a quand même été chercher 2 points au classement. Je ne vais pas faire le tour de toutes les équipes, je vais me concentrer là, sur les formations de tête. Le Phoenix de Sherbrooke, qui était en voyage dans les Maritimes, est allé chercher 4 points sur 6. Victoire au Cap-Breton et à Charlottetown, mais défaite à Halifax. Une défaite au cours de laquelle ils ont quand même obtenu 48 tirs au but sur le filet de Mathis Rousseau, qui a été exceptionnel dans ce match-là pour les Moussets. Du côté des Tigres de Victoriaville, ben, on est allé chercher 2 victoires, une à la maison contre Val-d'Or, 9-3, et une à Boisbriand, 4-3. Les Remparts aussi étaient dans les Maritimes au cours de la dernière semaine. Ils ont été chercher 5 points sur 6. Moncton et Cap-Breton, des victoires et cette défaite en tir de barrage contre les Moussets d'Halifax, 2-1. Un excellent match qui impliquait donc les deux meilleures équipes au classement général. Donc, quand on regarde justement le classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ben les Remparts sont toujours premiers avec 67 points. Halifax a 61 points avec un match de plus à disputer. Et c'est très serré par la suite. Victoriaville, Gatineau et Sherbrooke, les 3 ont 58 points. Victoriaville a joué 41 matchs, Sherbrooke 42 et Gatineau 43. Ça va être intéressant à surveiller, il n'y a pas de doute. Le week-end prochain, il y a 2 duels également qui vont être intéressants. Sherbrooke qui joue contre Victoriaville vendredi soir à Sherbrooke et samedi à Victoriaville. Je vais probablement aller faire un tour vendredi soir à Sherbrooke. On va notamment honorer les gagnants des médailles là, du côté des Tchèques et du Canada qui se sont alignés pour le Phoenix de Sherbrooke. On sait qu'il y en a eu beaucoup, là, Tyson Hines et Joshua Roy pour le Phoenix. Jakub Brabanec qui n'a toujours pas joué avec Sherbrooke. Qui va être honoré aussi, de même que David Spachek et à l'entraîneur Stéphane Julien également. Donc, on va honorer tout ce beau monde-là vendredi soir à Sherbrooke avant le match. Dans la course au meilleur pointeur, Jordan Dumais est toujours au premier rang avec 76 points, suivi de son coéquipier Alexandre Doucette, qui lui mène pour les buts marqués 36 buts en 42 matchs depuis le début de la saison. Et un joueur qui va très bien par le temps qui court et qui a fait partie des nombreuses transactions au cours de la période des fêtes, c'est l'attaquant Riley Kidney qui est maintenant passé de Bathurst à Gatineau. Il a 13 points en 5 matchs depuis qu'il s'est rapporté aux Olympiques. Jeudi dernier, avant le match entre les Olympiques et l'Armada de Blainville-Boisbriand, j'ai fait un brin de jasette avec Riley Kidney. Évidemment, l'entrevue est en anglais. Je vous résume tout ça tout de suite après. Donc, voici cet entretien avec Riley Kidney.
Well, Riley, first of all, how is the injury that cost you the World Junior?
It's a lot better now. I had a lot of time over Christmas break for it to recover. It was unfortunate that it happened, but Nothing I can do. I can't control how my body feels. So, but yeah, it's feeling a lot better now.
How tough it was for you, I mean, the chance to go back. We talked about it because it was in Halifax, and the fact that I'm sure you followed the tournament. You watched the games probably. How tough it was?
Yeah, it was pretty tough. It was pretty emotional because it's just like in the hometown, such a once in a lifetime opportunity. But yeah, I didn't try to beat myself up on it. I just try to look past it and just focus on the second half here.
Last time I saw you before the camp was in Chicoutimi, we were talking about the rumors and the trade. We talked about Halifax, about Sherbrooke, maybe here. So when you finally found out that it was here, what was your reaction?
Yeah, I was super happy. Gatineau is a great spot to be. And yeah, we have a great team here. I'm super excited for later on in the year, the playoff run and everything. I think this is a special group, and it's super exciting.
It was long. I mean, it came only the last day. We were kind of worried. Was there a lot of talk between you and Gordy and Batters?
Yeah, it was a long process, but I knew I was going to get traded. I just didn't know when. But when it came to the last day, I knew it was going to happen. So yeah, me and Gordy were talking quite a bit. He was looking for a good deal for him and Bathurst, and I think he found it. And I'm glad I'm here.
There's always some pressures on the guy that are traded for a lot of first round picks. It's not as worse as it is maybe in the WHL. He must have seen those trades, but it seems that you still have pressure on you. You're coming here, you're a Montreal draft pick, and we paid a lot to have Riley Kidney, so it adds pressure on you.
Yeah, obviously, it has a little bit of pressure, but I'm confident in myself how I can play. I just need to bring it every night and play my game, and I think if I focus on that every night, then I'll be fine.
When you saw all those trades happen, Quebec, Sherbrooke, you, I think this is the first time maybe in 25 years that three teams have like 14 or 15, 19-year-old players. It's going to be real tough to for the end of the season and the playoffs.
Yeah, it's like there's some great teams in the league this year, but it's just going to make playoffs a lot more fun and a lot more intense. Looking at that, it's gonna be really hard, but yeah, I'm super excited for it.
What about leaving Batters? Was it tough?
Yeah, it was pretty emotional. I was there for 3.5 years, ever since I was 16. But I do believe, I think just leaving, going to a contender was obviously the right choice for me. And obviously it's closer for Montreal as well. They can come watch tomorrow, so I think it's better all around.
You had a lot of talks with Montreal. I heard sometimes that they weren't really happy the way you were playing, maybe in the first part of the season. Was there any adjustment you had to do and talk with them, with Francis Bouillon and guys like that?
Yeah, they just told me I need to play with a lot of pace. I need to play as an NHL pace. So I've been trying to do that for the whole year. So, yeah.
What do you like about your team here?
I think we're really deep, the forwards and defense. We have four good lines, three good defense pairings. And obviously, with LePena, I think he's one of the best goalies in the league. So it's always great having a great goalie like that. It's just a lot. It builds more confidence in the group. But yeah, it's. I think just the depth of this team is the best thing.
Is it tough to adjust out of the ice, being the new billet and stuff like that?
Yeah, it's obviously tough, but it takes a couple of days to really adjust to the billet house. I'm lucky. I have a great billet, so yeah, I'm adjusting really well, and I'm happy.
Good luck.
Thank you.
Alors voilà donc cet entretien avec Riley Kidney, sans traduire évidemment tout mot à mot. Disons que cette transaction est venue sur le tard. Elle s'est faite uniquement le 6 janvier au matin. Il y avait toujours beaucoup de rumeurs qui envoyaient Riley Kidney. On parlait d'Halifax, on parlait de Sherbrooke. Finalement, il a abouti à Gatineau, très heureux de la tournure des événements. C'était émotionnel un petit peu pour lui, évidemment, de quitter Batters. Il était là depuis l'âge de 16 ans, donc 3 ans et demi. Mais c'était la meilleure chose dans son cas. Dit évidemment aussi qu'en tant qu'espoir du Canadien, en se rapprochant de Montréal, les gens de développement au niveau du Canadien, Francis Bouillon et compagnie, auront sûrement l'occasion de le voir jouer plus souvent à Gatineau que c'était le cas à Batters. Je suis revenu aussi évidemment avec lui sur la déception de cette blessure qu'il a subie au camp de sélection d'équipe Canada, qui a ruiné sa possibilité de participer à un deuxième mondial junior de suite. n'étais pas certain qu'il se serait taillé une place dans l'équipe, mais là, le fait qu'il a été blessé, ça a comme réglé le dossier, surtout que le tournoi était à Halifax, chez lui en Nouvelle-Écosse. Alors ça a été difficile aussi. Riley Kidney, en tout cas, connaît un bon départ avec les Olympiques de Gatineau. 2 buts, 11 passes pour 13 points en seulement 5 matchs depuis son arrivée avec les Olympiques. Je vous en parlais également un petit peu plus tôt. On a publié cette semaine la fameuse première liste de la centrale de recrutement de la Ligue nationale. C'est toujours un moment qui est attendu. Évidemment, ce n'est qu'une liste de travail. Ce n'est pas la Bible, comme on dit. C'est une liste parmi tant d'autres. Chaque équipe, évidemment, fait sa propre liste. Mais il n'en demeure pas moins que celle qu'on peut citer, celle de la Ligue nationale, nous donne certaines indications de quelle façon pourrait se passer cette séance de sélection-là. Pas de surprise, évidemment, Connor Bedard est au premier rang en Amérique du Nord, suivi de Adam Fantilli et de l'Américain Will Smith du programme de développement des moins de 18 ans des États-Unis. Au niveau de la Ligue junior majeure du Québec, le joueur le mieux classé, c'est Ethan Gauthier, l'attaquant du Phoenix de Sherbrooke. Pas de surprise là. Il est au 14e rang. On retrouve également au 24e rang Étienne Morin, le défenseur des Wildcats de Moncton, et en 27e position, l'attaquant Mathieu Catafor des Moussets de Halifax. En deuxième ronde, du côté toujours de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Tyler Peddle, des Voltigeurs de Drummondville, au 46e rang. Mathéo Mann, le défenseur des Saguenay-Chicoutimi, au 53e rang. Et on complète la deuxième ronde avec Jordan Tourigny, défenseur des Cataractes de Shawinigan, au 63e rang. Ces 6 joueurs-là, qui sont les 6 mieux classés par la centrale de recrutement de la Ligue nationale, vont tous se retrouver au match des meilleurs espoirs qui aura lieu mercredi le 25 janvier prochain à Vancouver, un match qui d'ailleurs vous sera présenté sur les ondes de RDS. On a annoncé cette semaine d'ailleurs les 2 équipes, là, les 40 joueurs qui étaient pour participer à ce match-là, on les connaissait depuis un bon moment. On avait annoncé ça un petit peu avant Noël, mais là, on a vraiment divisé les 2 équipes, les rouges et les blancs. Alors, les joueurs sont tout mélangés, évidemment, là, d'un côté que d'autre. Il y a 4 joueurs de la Ligue junior majeure du Québec qui se retrouvent d'un côté dans l'équipe de Connor Bedard. Il y a 2 joueurs, Gauthier et Peddle, qui vont être de l'autre côté. On essaie de diviser ça, évidemment, le plus équitable possible pour donner le meilleur match possible. Alors, c'est quelque chose qu'on a commencé en 1996 au niveau de la Ligue nationale et de la Ligue canadienne de hockey. À l'époque, on appelait ça les équipes Cherry et Or. Évidemment, ça a changé. Là, c'est tout simplement les rouges et les blancs. Alors, c'est un match qu'on va vous présenter le 25 janvier prochain, juste pour vous confirmer. Morin, Jordan, Tourigny et Mathieu Catafor vont jouer pour l'équipe des Rouges. C'est l'équipe dans laquelle va évoluer Connor Bedard. Et du côté des Blancs, on aura 2 joueurs de la Ligue junior majeure du Québec, Ethan Gauthier et Tyler Peddle. Peut-être qu'on les verra ensemble sur un même trio. Ils avaient quand même bien fait ensemble chez les moins de 17 ans l'an dernier lorsqu'ils avaient eu la chance de jouer là, au défi à Ottawa. À suivre donc dans ce match-là. Et c'est un match qui est quand même un match important là, pour les jeunes qui sont admissibles au repêchage cette année. Un de ces jeunes-là qui est admissible à la séance de sélection de cette année, qui a été classé 24e par la centrale de recrutement de la Ligue nationale et qui va participer aussi au match des espoirs, c'est le défenseur Étienne Morin des Wildcats de Moncton, qui au moment où on se parle est le défenseur avec le plus de buts inscrits dans la LHJMQ cette année, 14. Et ce matin, j'ai fait un brin de jasette avec lui pour parler un peu de sa saison et justement du match des espoirs qui arrive à grands pas.
Étienne Morin, défenseur des Wildcats de Moncton, merci de te joindre à nous. Parle-moi de ta saison jusqu'à présent. Je regarde les chiffres. Est-ce que c'est au-delà de tes attentes un peu? Tu as une super belle progression par rapport à l'an passé.
Oui, ben c'est sûr que c'est au-delà de mes attentes. Je suis arrivé ici un peu. J'ai un petit bug, je peux dire, en été. J'ai attrapé une mononucléose, donc ça a compliqué un peu les choses. Je suis arrivé au camp d'entraînement 15 livres short, donc ça a été un peu plus compliqué pour mon mental au début, de savoir que c'était la plus grosse saison de ma vie qui arrivait, puis je n'étais pas prêt à mon camp d'entraînement, donc ça a été un peu plus compliqué au début des choses, mais au final, comme vous venez de le dire, c'est au-delà de mes attentes, ça va extrêmement bien, non seulement pas pour moi, mais pour mon équipe aussi.
Est-ce que tu as une explication? 14 buts depuis le début de la saison, c'est un sommet chez les défenseurs de la Ligue junior majeure du Québec. Pourtant, tu es un gars qui passe un peu sous le radar. On ne parle pas toujours de toi. On parle beaucoup de Tristan Luneau. On parle des gars repêchés. Puis tout ça, quand on parle de défenseurs, on oublie un peu que tu as toute une saison. Y a-tu une explication?
C'est compliqué à expliquer. J'imagine que je suis souvent là au bon moment puis j'essaie de capitaliser sur les chances que j'ai, mais j'ai pas vraiment d'explication sur comment scorer des buts ou peu importe.
Étienne, tu as été placé là, sur la centrale de recrutement en première ronde en Amérique du Nord. Ça aussi, j'imagine que c'est un bel accomplissement. C'est seulement une liste, c'est seulement la mi-saison, mais c'est déjà quelque chose quand même d'acquis.
Oui, c'est sûr. Encore une fois, comme j'ai dit, je suis parti de loin avec cet été. J'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Puis au final, d'être ranké en première ronde, comme vous venez de le dire, c'est incroyable.
Tu vas participer aussi au match des meilleurs espoirs à Vancouver. C'est une belle vitrine. Souvent, les directeurs généraux de la Ligue nationale, c'est le seul match ou un des rares matchs qu'ils ont la chance de te voir. Est-ce que tu vois ce match-là comme extrêmement important?
C'est sûr que c'est un match très important. Juste, encore une fois, tous les meilleurs patineurs de North America, ils vont être là. Donc, ça va être un match important à bien performer défensivement et offensivement aussi.
Quel genre de défenseur tu es? Quelqu'un qui ne regarde pas jouer les Wildcats de Moncton souvent. Là, parle-nous de toi un petit peu. Là.
Je me considérais comme un two-way defenseman. Donc, les deux sens de la glace pour moi sont très importants. Il y a des matchs que je vais être plus défensif ou d'autres qui vont être plus offensifs dépendamment des rôles que je me fais donner. Mais c'est sûr que j'adore supporter l'attaque dans un sens. J'ai un bon tir des poignets, j'ai une bonne précision sur mes tirs, sur mes premières passes. Des bonnes mains et une bonne agilité sur la ligne bleue. Mais mon asset qui est le plus fort, c'est probablement mon hockey IQ. Donc, tout ce qui consiste à prendre des décisions, des premières passes, être calme avec la rondelle. Donc, je me décrirais comme ça.
Tu n'as pas eu le cheminement comme les autres joueurs ont. Tu n'as pas joué dans la Ligue Midget 3A l'année avant ton repêchage à la GMQ. Où tu étais exactement? Parle-nous de ça. Pourquoi tu as pris cette avenue-là?
Oui, donc j'étais à CIH Academy, que ça s'appelle, donc une école internationale du côté de l'Ontario. À ma deuxième année Bantam, j'avais eu une offre qui était... je ne pouvais pas vraiment refuser, donc j'étais offert d'aller jouer Midget 3 à ma deuxième année Bantam. Aussi, je pouvais apprendre l'anglais, donc sachant que l'anglais est quelque chose qui est très important de nos jours aussi. Donc, c'est principalement pour ces deux raisons-là que j'ai changé de bord. Puis aussi, le fait de pouvoir quitter la maison jeune me fait grandir en tant que personne et maturer aussi. Donc, c'est sûr que c'était une expérience incroyable. J'avais un Coréen comme roommate. Donc, on voit les différentes traditions. Donc, encore une fois, pouvoir jouer Midget 3 ma deuxième année Bantam, me maturer en tant que joueur.
On parle avec Étienne Morin des Wildcats de Moncton. Est-ce qu'à un certain moment, l'option des universités américaines a fait partie de tes possibilités ou pour toi, c'était vraiment la LHJMQ?
C'est sûr que ça a fait partie de mes possibilités. On en a un peu regardé, sachant avec le COVID aussi, on savait pas trop ce qui allait se passer. Donc, c'est sûr que ça a été plus compliqué à un certain temps, comme je viens de le mentionner avec le COVID. Ça a été une option, oui. Mais au final, je me suis dit, je vais aller dans la LHJMQ puis j'ai été drafté ici par... Les Wildcats de Moncton, ça a été une de mes meilleures décisions que j'ai prises toute ma vie.
Ben, parle-moi-en de ça. Tu es un gars de Valleyfield. Oui, tu étais parti de la maison en Ontario, mais c'était quand même pas très loin. Là, tu te retrouves à Moncton. Quand tu as entendu ton nom avec les Wildcats, la première fois, comment on a réagi ça, toi, la famille, puis tout ça? Là?
C'était incroyable, franchement. Le fait que je sois loin, ça me dérangeait pas du tout. Je savais que c'était une excellente organisation. Juste avoir les facilités quand je suis arrivé, c'était incroyable. Donc, comme je l'ai dit, j'aurais pas pu mieux espérer, puis j'ai eu des très, très gros rôles en tant que défenseur de 16 ans. Donc, comme j'ai dit, c'est une de mes meilleures décisions.
J'ai eu la chance l'autre jour, pendant le camp de sélection d'Équipe Canada, de voir les aménagements que les Wildcats ont fait alentour du vestiaire, puis l'histoire de l'équipe est sur les murs, puis tout ça. Toi, tu es un jeune, tu rentres là, tu vois les photos des anciens qui ont gagné la Coupe Stanley, comme Corey Crawford, Brad Marchand, tous ceux qui jouent dans la Ligue nationale. On a tout mis ça en évidence. Comment est-ce que les joueurs ont trouvé ça, cette amélioration-là qui a été faite?
Je pense qu'il y a juste un mot pour décrire ça. C'est incroyable. Juste de voir à quel point notre propriétaire est passionné du hockey, ça nous donne encore plus l'envie d'embarquer sur la glace à chaque jour. Donc, comme j'ai dit, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour les facilités qu'on a, puis on essaye de faire en sorte que ce soit un cadeau pour lui à chaque fois qu'on embarque sur la glace. Donc.
Je suis en mesure de te dire qu'il y a des équipes de la Ligue nationale qui n'ont pas ces facilités-là. Là, je peux te l'assurer. Dis-moi, en terminant, comment tu vois la fin de la saison? Ça ne sera pas facile. Les Mooseheads sont quand même... ils se sont améliorés pour gagner dans la section des Maritimes. Vous êtes peut-être la seule équipe qui est capable de peut-être un peu rivaliser avec eux, mais il reste que ce ne sera pas évident là, pour rejoindre Halifax.
Mm-hmm. Ben, encore une fois, tout est possible. Donc, chaque match est une concurrence contre nous. Notre DNA, je peux dire, c'est qu'on travaille toujours. Donc, on va amener un match à chaque soir. Il n'y a jamais de match qu'on va être hors concurrence. Donc, c'est sûr que chaque match, comme je viens de le dire, on va arriver puis on va être prêt, peu importe l'équipe. Même si c'est la meilleure équipe dans CHL, ça ne me dérange pas. On va la jouer, donc on va être prêt en tout temps. Puis comme je l'ai dit, tout est possible, donc on a de hautes attentes ici.
Étienne, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Bonne continuité, puis bonne chance pour le match des espoirs.
Merci beaucoup.
Alors voilà donc Étienne Morin, un jeune homme qui s'exprime très bien et qu'on découvre de plus en plus. Quand je parle avec les recruteurs de la Ligue nationale, on me dit... doit peut-être améliorer un peu la vitesse de ses pieds là, au niveau du coup de patin et tout ça. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un gars qui, à 17 ans, là, s'en va vers une saison potentielle de 25 buts comme excellent. C'est un nom qui sera évidemment à suivre au cours des prochaines semaines. Peut-être pour compléter là, sur... la liste de la centrale de recrutement de la Ligue nationale, je vous ai parlé des six joueurs LHJMQ dans les deux premières rondes. Il y a un autre Québécois qui a grandi aux États-Unis, Gabriel Perrault, qui est le fils de Yannick Perrault, qui est classé au 15e rang au niveau de la première ronde de la centrale de la Ligue nationale. Et du côté des gardiens de but, on n'en a pas parlé, mais on a Quentin Miller des Remparts de Québec qui est au 9e rang de la liste, Samuel Saint-Hilaire du Phoenix de Sherbrooke au 19e rang et Riley Mercer des Voltigeurs de Drummondville au 28e rang. Donc, ce sont les gardiens là, qui sont à surveiller pour le repêchage. Carson Bjarnason des Wheat Kings de Brandon est le gardien le mieux classé en Amérique du Nord. Évidemment, c'est une liste qui va évoluer tout au long de la saison et ça demeure un guide tout simplement. Mais c'est toujours intéressant, évidemment, d'en parler. Celui qui est numéro un sur cette liste, Connor Bedard des Pats de Regina, ben, n'a pas cessé de nous en mettre plein la vue. Depuis son retour du championnat mondial, il a disputé 3 matchs. Il a récolté 9 buts et 5 passes pour 14 points. Bedard est sur une séquence de 30 matchs avec au moins un point. La seule fois où il a été blanchi cette saison, c'est dans le tout premier match qu'il a disputé. Il lui reste encore 26 matchs à jouer d'ici la fin de la saison. Donc, s'il devait obtenir un point dans chacun de ces matchs-là, ben, ça lui ferait une série de 56 matchs. Il serait quand même à court du record de Mario Lemieux qui, en 83-84, avait réalisé 61 matchs de suite avec au moins un point. Mais simplement de mentionner Connor Bedard dans la même phrase que ces bonhommes-là, Mario Lemieux, on l'a fait évidemment lors du Mondial Junior. C'est assez exceptionnel. La semaine dernière, lorsqu'on a enregistré notre balado-diffusion, la période des transactions n'était pas tout à fait terminée dans l'Ontario et dans l'Ouest. Ça s'est terminé le 10 janvier. Shane Wright, on parlait beaucoup des Knights de London. Finalement, c'est avec les Spitfires de Windsor qu'il s'est retrouvé. La transaction a été confirmée là, le 10 janvier au matin dernier. Une autre transaction aussi qui a fait jaser dans l'Ouest, en plus de celle de Holden Zellweger, là, qui est passé aux Blazers de Kamloops, c'est les Thunderbirds de Seattle qui ont acquis les droits junior de Dylan Gunter des All Kings d'Edmonton. Alors, Dylan Gunter est retourné avec les Coyotes de l'Arizona au retour du Mondial Junior. On sait que c'est lui qui a marqué le but gagnant là, du match de la médaille d'or. Mais si jamais les Coyotes de l'Arizona décidaient au début du mois de mars, lorsque va arriver la date limite de la période des transactions, de le retourner dans les rangs juniors, ben, il pourrait aspirer à jouer pour les Thunderbirds de Seattle, qui sont une équipe de premier plan cette année dans la Ligue junior de l'Ouest. Donc, un dossier qui sera surveillé également en deuxième moitié de saison. Vous dire, avant de vous laisser aller, que depuis mardi dernier, vous pouvez maintenant poser votre candidature pour devenir le prochain commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Gilles Courteau qui a annoncé sa retraite en décembre dernier. Le processus est donc en marche. J'avoue que je trouve ça un peu spécial qu'on affiche le poste de commissaire, mais vous pouvez aller sur le site de la LHJMQ, vous cherchez un petit peu, vous allez trouver là, l'application à la compagnie de ressources humaines qui est en charge de recueillir les CV, les lettres d'intention. Alors, si ça vous tente de poser votre candidature comme commissaire pour succéder à Gilles Courteau, ben, sachez que c'est en ligne. Je ne sais pas exactement jusqu'à quelle date on va laisser ça en ligne, mais on accepte présentement les candidatures à ce poste. Les joueurs de la semaine, en terminant, ben, au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'est le gardien Mathis Rousseau qui a été choisi le joueur de la semaine, le gardien des Mooseheads de Halifax, qui a signé 2 victoires, une moyenne de 1,44 et un taux d'efficacité de 963. Et dans la Ligue américaine de hockey, il y a un autre gardien québécois, Louis Domingue, qui est choisi le joueur de la semaine des Wolfpack de Hartford. Louis Domingue qui a 2 victoires, une défaite en prolongation, moyenne de 1,66 au cours de la dernière semaine. Taux d'efficacité de 941. Il joue avec le club école des Rangers. Le problème pour Louis Domingue avec les Rangers, c'est qu'on a Chesterkin et Halak devant lui. Alors, Domingue est confiné là, un peu dans la Ligue américaine, même s'il a connu une bonne semaine. Peut-être vous parler aussi, avant de vous laisser aller, de nos web diffusions du vendredi. Nous avons un tableau pour vous. Alors, ce vendredi, un duel extrêmement intéressant entre les Tigres de Victoriaville et le Phoenix de Sherbrooke. Je vous en parlais un petit peu plus tôt. Et le match du 27 janvier, non seulement sera-t-il web diffusé, les Remparts qui vont visiter les Saguenayens, mais ce sera également présenté en direct à la télé, tout comme le match du 10 février entre le Phoenix et l'Armada. On va commencer nos télédiffusions de matchs. Donc, le premier rendez-vous, ce sera les Remparts qui vont visiter les Saguenayens le 27 janvier à compter de 19h au Centre Georges Vézina. Les Saguenayens qui, incidemment, ont gagné leurs 5 derniers matchs et qui sont remontés un petit peu au classement et qui alignent peut-être une des meilleures recrues de la LHJMQ cette année, l'attaquant Maxime Massé, qui présentement fonctionne à plus qu'un point par match. Alors voilà, ça fait le tour de ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je remercie mes invités, Anthony Richard du Rocket de Laval, Riley Kidney des Olympiques de Gatineau et Étienne Morin des Wildcats de Moncton. Merci à François Perrault à la technique, Luc Dansereau à la coordination. Puis je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une autre édition de Sur la glace. Bonne semaine!